Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode de la troisième manche. Aujourd'hui, je reçois Rebecca Garcia du Sport Center et Johan Tachet de skiactu.ch pour parler de plein de sujets autour du cirque blanc. Forcément, on va parler Marco Odermatt. Peut-il aller encore plus loin? A-t-il encore des axes de progression? Est-il vraiment le Federer du ski? On en cause avec nos deux intervenants. On va parler aussi de l'espèce de théorie du complot entre la FIS et Suisse-Ski. C'est vraiment très intéressant. Et puis forcément, on va parler de Lara Gut et de Michaela Schifrin, qu'on se demande bien ce qu'elle fait avec son Instagram. Bonne écoute de la troisième manche. C'est parti, salut Johan, t'es sur la route, mais t'es avec nous, ça fait plaisir, comment tu vas?
Salut Robin, ça va nickel et toi?
On s'en sort. Salut à toi Rebecca aussi, qui est un peu moins en route.
Non, un peu moins en route, posé au bureau depuis un moment, ça va bien, et toi?
Écoute, pas mal. On sort d'un week-end de ski étonnant, hein, comme un peu toute cette saison 2023-2024. Rebecca, je commence avec toi. Marc Girardelli disait que Marco Odermatt pouvait partir en vacances en janvier aux Maldives, et qu'il aurait quand même été gagnant du gros globe. Bah, ça n'a pas manqué et il l'a fait avec du panache, quoi.
Ouais, il reste quand même pas mal de courses, hein, mine de rien. Alors bon, il fait pas de slalom, mais il avait encore 6 courses entre guillemets pour se garantir la chose. Mais ce qu'il a fait cette année, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que il le répète à chaque fois, mais cette capacité à toujours rester au top niveau sur différents tracés, sur différentes neiges, c'est vraiment incroyable ce qu'on a vu samedi.
Johan, on pourrait dire à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire après tous les blessés. Mais quand on voit la gueule de Christofferson samedi soir, quand il se fait battre pour 12 millicentièmes après avoir fait une deuxième manche de monstre, Odermatt, lui, il n'y a pas besoin de... Il l'a toujours, il est toujours à fond.
Ah bah, Odermatt, il aime en fait ce challenge. Il aime être dans l'adversité. Audi, on l'a déjà vu à Schladming où il était 11e de la première manche et il a réussi à sortir vraiment du grand ski pour remporter la course. Et là, à nouveau, il était mis sous pression par Christo et il arrive à s'en sortir. Et c'est là où on voit la marque des grands. C'est même quand il est un peu challengé par les adversaires, il arrive quand même à l'emporter.
Rebecca, on pourrait se dire que c'est un petit peu un titre au rabais, hein, mais il a quand même eu du gros en face. On a vu Sarrazin l'a bien challengé à Kitzbühel notamment. C'est bien pour tout le monde, mais après, il domine trop. Pour nous, c'est sympa. Pour les Autrichiens et les Allemands, ça doit être longué.
Ouais, bon, t'es dur de dire au rabais, mais je comprends l'idée. Après, voilà, c'est aussi le jeu. Peut-être que c'est lui qui va se blesser demain. Bon, on ne lui souhaite pas, mais... Mais voilà, c'est clair, c'est normal de profiter de ça. J'avoue que je n'ai pas la vision d'à quel point Hirscher avait aussi peut-être eu des titres au rabais ou pas. Mais là, en tout cas, vu à quel point il a écrasé vraiment tout sur son passage, toutes ses victoires, ce n'est pas des victoires genre ric-rac sur le reste de la classe. C'est vraiment, il écrase tout le monde. Donc, qu'il y ait eu des adversaires ou pas pour faire figuration de bataille, au final, ça ne change pas grand-chose au fait qu'il a été monstrueux cette année, quoi.
Johan, il y a encore des records à aller chercher, hein, record de points, record de victoires, record d'écart avec le deuxième. C'est un peu Federer-esque de la grande époque, ça, chasser les records plutôt que les victoires, tout simplement.
Bah, en fait, il est tellement au-dessus de tout le monde que maintenant, en fait, sa motivation principale, c'est d'aller chercher les records. Sinon, il a déjà tout gagné. Il s'arrêterait maintenant et puis il profiterait d'une retraite paisible. Et là, avec ses records, ça le motive. Et chaque année, on va lui trouver des nouveaux trucs à faire. Hein. Comme tu le dis, tu le compares à Roger Federer, on l'a déjà évoqué, hein. C'est notre nouveau Roger à nous. Et il va encore nous surprendre. Et puis, il y a surtout ce record. Je pense que le plus beau à aller chercher, c'est les 8 grands globes d'affilée de Marcel Hirscher. Donc du coup, on risque de revoir encore pas mal de temps du Marco Odermatt.
Pour terminer, Johan, un peu sur ce truc de Federer, hein, c'est quand même un peu le même genre de com où ça va pas trop loin politiquement. Il a quoi, 21 sponsors différents, je pense. La seule fois qu'il s'arrête dans sa saison pour aller faire une pub, c'est avec Federer. On a quelque chose en Suisse avec ce genre de caractère. On aime bien ça.
Ouais, bah, il plaît, hein, il plaît à monsieur et à madame tout le monde, c'est ça aussi, hein, il dépasse pas des lignes, hein, il est droit, il est suisse allemand, hein, Audi, faut le rappeler. Après, par rapport à Federer, Audi s'accorde deux, trois entourloupes, hein, de temps en temps, il fête volontiers une ou deux de ses victoires.
Bon, alors pour ceux qui se rappellent de la grande époque de Federer, je peux dire qu'il fêtait aussi bien ses
Ok.
victoires. Il n'y
Je
avait pas les
n'écoutais pas
réseaux
sur le circuit de tennis.
Ouais, il y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais je pense qu'heureusement, parce qu'on l'aurait vu dans des postures un peu similaires. Rebecca, bah, pour terminer sur ce sujet aussi, hein, en plus, bah, Federer et Odermatt ont le même sponsor, on l'a vu dans une pub d'un goût très suisse-allemand. Il y a ce truc aussi, est-ce qu'à 26 ans, en ayant autant gagné, on peut garder la motivation pour aller chercher les 8 globes, par exemple, dont parlait Johan? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui avec le jeunisme dans le sport, hein, que ce soit dans le vélo, le foot, le hockey, il y a beaucoup de jeunisme. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de se lasser, de vouloir voir autre chose ou d'être fatigué du haut niveau à 30, 32 ans?
Bah ça, on en a vu pas mal dans les cas récents, hein, des jeunes sportifs qui prennent leur retraite. Je pense à Barty Trotto quand elle avait gagné et elle avait décidé de partir. Mais moi, j'ai l'espoir qu'ils se sentent bien déjà et qu'ils se sentent assez bien pour continuer comme Lara Gut-Bérami, parce qu'elle a eu quelques warnings un peu du ah, mais est-ce que je devrais pas arrêter, etc. etc. Et la force qu'elle a, c'est qu'elle est toujours aussi forte. Et du coup, ça va, et du coup, elle continue, et du coup, elle trouve du plaisir dans le ski. Donc, bah, ce qui serait idéal, c'est que Odermatt continue à aimer, en fait, le processus aussi. C'est aussi une question de mentalité comme ça, mais c'est aimer ce processus pour être meilleur. Eux, ils voient toujours un peu des défauts que nous, on voit pas. Nous, on peut se dire, ah là là, trop fort, sa deuxième manche, un Schladming, imbattable, il est parfait. Et puis lui, il va dire, non, non, à la porte numéro 12, manquait quand même un petit truc, quoi. Et je pense que c'est ce genre de mentalité qui peut faire, qui peut continuer. Après, forcément, au bout d'un moment, il risque de se lasser une fois. Est-ce que l'herbe sera plus verte ailleurs? Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'il arrive justement après ses courses à dire, ouais, mais ça, c'était pas parfait. Là, j'aurais pu faire mieux, etc. Je pense qu'il est capable de continuer et de vouloir être au max.
On n'est pas non plus, on n'est plus non plus dans les années 80 où les athlètes arrêtaient assez tôt. Hein. On peut prendre l'exemple d'Erika Remoës, qui avait arrêté à 27 ans. Et là, aujourd'hui, bah, c'est l'âge de Audi. Et franchement, bah, il a encore marge de progression. Je ne pense même pas, comme tu l'as dit, Rebecca, qu'il soit encore à son plein potentiel. Parce qu'il cherche la perfection et il y a encore quelque chose à faire de beau et puis de vraiment aller chercher, aller tutoyer les meilleurs. Et peut-être il y a aussi bah, l'idée de devenir le nouveau Stenmark.
Bah, Johan, on l'a vu à Kvitfjell, hein, c'était le parfait exemple, une piste qu'il n'aime pas trop, pas assez difficile, la neige un peu facile. Et bah là, sur les descentes, les trucs très roulants, très, 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 où il faut vraiment un toucher de neige incroyable sur le plat, là, il a encore une marge de progression.
Ouais, on l'a vu déjà à Val Gardena. C'est des pistes, plus elles sont faciles, moins ça sera évident pour Audi de faire la différence, puisque les autres athlètes ont également les capacités de briller sur ce genre de tracé. Et c'est là qu'il doit travailler. Hein. C'est vraiment, comme tu le dis, sur les parties planes où il peut encore gagner. C'est pas non plus il fait pas non plus 100 kilos comme un Dominique Paris. Hein. Donc aussi, il doit travailler avec. Il a les défauts de ses qualités, on va dire, en fait, Audi. Donc voilà. On peut pas. Après, comment travailler sur le plat, c'est une autre question. Tu vas prendre de la masse, tu comment? C'est délicat, mais effectivement, il y a encore une marge de progression.
En même temps, Rebecca, le problème est un peu inversé pour Odermatt, parce qu'on a l'habitude de dire que pour gagner une descente, maintenant, il fallait avoir plus de 30 ans, parce qu'à l'époque, dans le top 10, il y avait un gars de 29 ans et puis 9 vétérans. Il a un peu inversé ce truc, et du coup, s'il peut encore progresser en descente, ça annonce de belles années, et pour lui, ça fait un joli challenge.
Non, c'est clair, bah ça fait toujours partie de ce défi. Au début d'année, il avait que la descente à la bouche. Enfin, il est excellentissime en géant. Mais au début d'année, c'était vraiment moi je veux gagner Wengen, moi je veux gagner Kitzbühel. Donc C'est ça qui a l'air de l'animer aussi beaucoup en ce moment. Ce qui est fou, c'est que ça l'empêche pas de gagner tous les géants. Et c'est presque ridicule de dire ça, mais voilà. Donc ouais, franchement, c'est hyper encourageant. Et puis voilà, le fait que ces moins bons résultats avec Fituel, ce soit les meilleurs résultats de la carrière de certains autres, enfin, c'est dire le niveau de ce garçon, quoi. C'est juste, c'est débile, je trouve. C'est complètement débile.
Bon, pour finir sur ces messieurs, un petit point noir peut-être, Johan. Les slalomeurs cette saison, c'est pas ça. Il y a des résultats moyens. Il y a eu cette victoire de Yule un peu par l'intervention du soleil à Chamonix qui a bien fait rigoler. Mais s'il doit y avoir un point noir côté Suiski cette année chez les messieurs, c'est peut-être les slalomeurs, non?
Alors, comme dirait l'entraîneur de Manchester United, il faut regarder le big picture, tu vois, vraiment l'ensemble. On commence quand même à se plaindre de types qui sont pratiquement tout le temps dans le top 10, quoi. C'est quand même hallucinant, la régularité de ces skieurs. OK, les podiums, il y en a moins. Ils sont quand même tout le temps là. Ils se battent à chaque course pour jouer le top 3. Après, évidemment, il y a eu ce slalom un peu bizarre à Chamonix. Et cela n'enlève pas à l'hégémonie, enfin le groupe en lui-même qui est performant. Il y a peut-être Ramon qui est un peu en deçà à cause de ses problèmes de dos. Mais à l'inverse, il y a un Marc Rochat qui réalise la meilleure saison de sa carrière. Donc tout ce qu'on pense, avec Loïc Meillard, avec Daniel Hulme qui sont toujours là. Franchement, non, on peut critiquer parce qu'ils ne sont pas sur le podium, mais ils sont quand même là.
Rebecca, il y a le truc aussi en vitesse, il y a beaucoup de skieurs tombés au champ d'honneur avec des ligaments un peu de partout, ce qui arrive moins forcément en slalom. C'est pour ça que le niveau restait haut toute l'année aussi en face.
Ouais, le niveau est resté haut et puis c'est un peu la même chose que l'année passée. C'est toujours aussi une question de confiance, de comment ils se sentent, etc. Enfin, il y a pas quelqu'un qui va écraser la concurrence. En tout cas, j'ai pas l'impression que quelqu'un arrive à le faire en slalom comme Odermatt le fait en géant, comme Kildee l'a fait sur des descentes ou autre l'année passée, par exemple. Donc forcément, ça ajoute un peu de challenge à tout ça. Et quand tu penses que tu peux très très vite enfourcher, c'est clair que ça rajoute un peu une petite dimension. Hein. Mais il y a pas vraiment. Déjà l'année passée, hein, on avait des skieurs qui écrasaient vraiment le reste du classement où c'était vraiment des petits duels. En slalom, on n'est pas dans un duel. Et ça c'est un peu l'exemple qui montre qui explique aussi pourquoi c'est difficile d'être régulier et de collectionner les podiums dans cette discipline.
Ouais, il y a une telle densité d'athlètes, il faut dire, en slalom, ils le disent, ils sont peut-être une trentaine à pouvoir jouer les podiums. C'est ça qui est hallucinant en slalom. Et puis là, c'est là où on peut aussi souligner la capacité à Manuel Feller d'avoir 200 points d'avance à ce moment-là de la saison en slalom, quand on sait la densité qu'il y a dans cette discipline.
Puis un petit problème aussi pour Yule notamment, c'est que lui, il aime bien les pistes dures et glacées, il n'y en a pas eu tellement cette année. Bon les amis, je vous propose de passer à la partie théorie du complot de ce podcast. Il y a de nouveau une jolie petite info sortie par MRK vendredi dernier sur les bisbilles entre le président de la FIS, John Elias, et Suiski. Cette fois, c'est une affaire de droit télé que les fédérations pour le moment centralisent et que la FIS aimerait bien distribuer par elle-même. On commence à mieux comprendre, Johan, non, ce qui s'est passé peut-être avec Cromontana ces derniers jours pour les Mondiaux 27. Entre ça, entre Urs Lehmann, qui était le concurrent d'Elias pour la présidence de la FIS, peut-être que ça vient un peu de là, les petits problèmes qui se passent actuellement pour Cromontana, non?
Alors, ouais, je sais pas s'il faut tout mettre dans le même panier, mais effectivement, en fait, les problèmes entre les fédérations nationales et la Fédération internationale de ski se datent quand même de plus d'une année et demie, depuis que Elias avait évoqué au moment de sa réélection qu'il voulait centraliser les droits de commercialisation du ski. Entre-temps, il y a également eu, au moment de sa réélection, le fait que les différents votants ne pouvaient pas voter non contre sa réélection, même s'il était le seul candidat. Et il y avait eu un dépôt, un poté qui a été fait auprès du tribunal arbitral du sport qui a ensuite été retiré. Non, les tensions existent, et elles existent depuis un moment. Et comme il y a quand même des rumeurs qui font état que, à l'époque, Peter Schwarznadel, qui était le président de la Fédé autrichienne, il a dit, mais si j'avais su comment ça allait tourner, j'aurais peut-être pas voté pour Elias. C'est dire aujourd'hui vraiment, bah, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la Norvège, qui sont les grandes nations du ski, bah, elles sont tous face à la piste et face à Johan Elias.
Rebecca, on parle quand même de beaucoup, beaucoup de pognon. Hein. Les droits de télé pour la prochaine période, c'est genre 600 millions d'euros sur 8 ans. C'est une grosse entreprise quand même, tout ce truc.
Ouais, bah c'est clair que l'enjeu est énorme ici, mais et c'est vrai, comme l'a dit Johan, qu'il y a eu pas mal de petits problèmes déjà par le passé, et notamment le fait que Swisski, la fédération autrichienne, allemande, s'était aussi alliée, rien qu'au niveau du marketing, en fait. Ils avaient abandonné ce proté auprès du tribunal arbitral du sport, et après ils avaient dit, mais attendez, on va s'allier pour un peu maximiser ces questions marketing. Et en fait, tu avais déjà l'impression à ce moment-là, c'était il y a peut-être une année, qu'ils avaient fait une espèce de fédération internationale dans la fédération internationale, en fait. Et c'est des petites marques de scission qui sont pas très encourageantes dans l'idée d'une gouvernance un peu dirigée du ski, parce que c'est clair que s'ils commencent tous à se séparer parce qu'ils veulent tous ce gros gâteau dont tu as parlé avant, ça va être un peu compliqué.
Mais moi, Yann, il y a quand même un truc qui m'a toujours fait beaucoup, beaucoup rigoler. C'est que Johan Elias, il venait d'une marque de ski et c'est marqué sur les skis les rebelles de la Coupe du Monde, World Cup Rebelles. Alors, comment tu peux être président d'un machin, avoir une marque de ski et t'autonomer un rebelle? C'est quand même bizarre, leur truc.
Ouais, alors, je ne sais pas si lui se nomme vraiment qu'il est rebelle, mais je pense qu'il en est parce qu'au moment où il s'est fait élire à la présidence de la FIS, où il était candidat, il dit « je vais arrêter mes mandats avec cette fameuse marque de ski rebelle ». Je ne sais pas, on ne peut pas la citer, hein, évidemment, sinon on doit communiquer, c'est ça. Ouais, donc, voilà, la marque Ed, en l'occurrence, il était président et CEO du truc. Alors, il n'est plus CEO, mais sur l'organigramme, il est toujours président et directeur. Donc, on ne sait pas. Il joue les rebelles, comme tu dis. Et il y a quand même un très, très gros conflit d'intérêts à ce niveau-là.
Bon, Johan, on ne va pas se mentir. Tu connais assez bien l'organisation à Crans-Montana. Hein. Quand ce truc est tombé à la suite de questions de la NZZ, un communiqué à 23h30, les gars, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe?
Oui, alors surtout qu'ils avaient eu pendant toute la journée des discussions avec la FIS et tout ça. Donc, ils sentaient un peu qu'il y avait des problématiques là. C'est pour ça que la FIS s'était déplacée par l'intermédiaire de Michel Vion à Crans-Montana. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un communiqué qui sorte aussi tard le soir pour vraiment les menacer de leur retirer la candidature. Après, voilà, c'est un jeu que se livre d'un côté la FIS, de l'autre côté Swisski, parce qu'ils sont surtout en pleine négociation actuellement par rapport à toutes les prérogatives financières de ces championnats du monde. Et c'est ça, et chacun essaie de tirer la couverture à lui.
Rebecca, bah c'est toujours une histoire de gros sous. Hein. Mais le lendemain, quand tu te retrouves avec Parmelin qui ne sait pas trop quoi dire et qui fait des grandes phrases pleines de vide, ça devait être spécial quand même.
Mais surtout, ce qui était très bizarre, c'est que tu as l'impression que personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Tu as l'impression que que personne discute ou je sais pas, que tu as quelqu'un qui dit A et les autres ont compris B. Enfin, il n'y a personne qui avait vraiment l'air de pouvoir expliquer, soit parce qu'ils n'avaient pas compris, soit parce qu'ils n'avaient pas le droit de le dire. Enfin, il y avait certainement un peu des deux, mais il y avait un côté très bizarre, en fait, à dire, mais c'est quoi le problème? Et les gens, mais toutes les parties prenantes te disent, ouais, bah en fait, on ne comprend pas trop, mais en fait, on a discuté de ça, mais tout d'un coup, eux, ils parlent de ça. Enfin, c'était ultra, ultra nébuleux et c'est vrai que, bah, un peu bizarre, quoi, quand même.
Parce qu'il y a quand même des mondiaux de freestyle l'année prochaine dans les Grisons, on n'a pas l'impression qu'il y a eu ces problèmes. Des mondiaux de vélo en Suisse, pas l'impression qu'il y a eu ces problèmes. L'Euro féminin de foot, il y a peut-être deux ou trois problèmes, mais c'est encore autre chose. Tu as vraiment l'impression que c'est une lutte d'influence politique, Johan, là autour. Ça doit être un peu fatigant pour tout le monde.
Ouais, totalement. Là, c'est lassant, c'est de la politique, c'est difficile aussi à y voir clair, comme a dit Rebecca. Ben. Les gens, ils ne comprennent pas à Suisse-Qui, à l'état du Valais, on ne comprend pas ce qu'on leur reproche parce qu'on leur a donné on leur a donné les garanties. Parmelin, en plus, l'a rappelé samedi. Et effectivement, c'est une guerre d'influence. On se demande même si ce n'est pas une guerre d'ego au final entre Johan Eliash et Urs Lehmann, parce qu'il faut rappeler que quand au moment où Johan Eliash se fait élire président de la FISE, son candidat, son plus sérieux candidat, c'est Urs Lehmann. Donc voilà, il y a peut-être bisbille à ce niveau-là, et voilà.
En parlant de bisbilles et de guerre de communication, Rebecca, Michaela Schifrin, qu'est-ce qu'elle nous fait ces temps? Franchement. Alors, elle est absente, pas de souci, mais après, elle dit par-ci, par-là, elle fait des petits trucs Instagram hein, depuis la plage. Ensuite, le week-end dernier, bravo Lara, bravo pour ton gros globe, annulation des deux Super G. Donc, finalement, si elle revient à 100%, Schifrin est presque refavorite pour le gros globe. Elle joue à quoi? Est-ce que vraiment, elle croit dans ce qu'elle écrit ou elle joue un peu la guerre des nerfs?
Alors, j'avoue que je la connais pas assez personnellement, mais pour moi c'est assez plausible que juste voilà, c'est plus facile en fait de te dire que t'es l'outsider et que bravo Lara, mais que tout d'un coup tu vois tu peux revenir, tu peux faire la surprise. Je pense que c'est plus facile d'être dans cette position-là que maintenant en revenant de blessure de dire vous en faites pas les gars, je vais plier le game, je reviens sur les épreuves techniques à Auray et après ce sera finito. Lara Gouberami, elle est bien gentille mais elle est un peu bête d'y croire. Enfin, t'as meilleur temps de pas tenir un discours comme ça parce que si tu te plantes, t'as vraiment l'air bête. Et du coup, tu peux arriver en disant bravo Lara, tu fais la bonne princesse, tu dis ok, je suis beau jeu, je félicite l'adversaire, mais après si elle peut lui passer devant et l'avoir dans le rétro, elle va le faire et ce serait aussi beau d'une certaine manière. Mais moi, je trouve que c'est assez cool parce que du coup, ça met un peu la petite tension de ouais bon, elle félicite, ok, mais c'est pas fini quoi.
Tout le suspense qu'il n'y a pas chez les hommes, c'est reporté de ce côté. Johan, il y a ce truc. Lara, elle ne veut pas parler des gros globes tant que ce n'est pas les finales. Elle ne veut pas y penser. L'autre dit, bravo, bravo Lara, c'est toi qui as gagné. Je ne veux pas penser gros globes. C'est une guerre de mots ou c'est juste pour essayer d'éloigner un peu la pression, pour autant qu'il y en ait sur les épaules de Schifrin, qui a déjà absolument tout gagné.
Alors, moi, je pense que Schifrin, elle a rien à perdre. Elle va vraiment revenir dans cette fin de saison, comme l'a dit Rebecca, pour donner le maximum. Et qui sait, sur un malentendu, elle peut aller chipper ce globe qui est presque promis à Lara. Lara, après, elle a toujours été comme ça. Hein. Course après course, on se focalise une fois, on fêtera une fois qu'on a le globe en main. Et elle serait bien inspirée, Lara, de faire des points le week-end prochain à Greenfield lors des deux prochaines épreuves de vitesse. Parce qu'elle a quoi, un peu plus de 200 points d'avance sur Michaela Schifrin. Il faudrait, je pense, en tout cas 300 avant les épreuves d'Auray, sachant qu'il y a deux slaloms encore à disputer après où Schifrin pourrait potentiellement lui reprendre 200 points.
Rebecca, c'est ça qui est bien aussi avec le ski, c'est que bah, tu ne sais pas qui va gagner, mais tu ne sais pas non plus quand où auront lieu les courses, si elles auront lieu. Le ski est un sport d'extérieur, on l'a dit, et il y a des gros droits TV, mais c'est comme la météo qui est la reine. Pour la télé, ce n'est pas super de se retrouver à 11h dans le Chalet Club sur Eurosport à devoir rediffuser du saut à ski féminin de la veille, mais ouais, c'est comme ça.
Bah, c'est comme ça, et je crois que ceux qui l'avaient oublié ont eu un beau, beau, beau rappel cette année avec toutes les annulations et tous les problèmes et toutes les alertes météo et tout ce que tu peux avoir sur ce thème. Ma foi, c'est vrai que c'est le jeu, c'est vrai que c'est coup dur pour Lara Gouberami ce week-end parce que c'est vrai qu'on se disait, bon, bah, deux Super G où Schifrin est absente, c'est cadeau, quoi. C'est vraiment des points entre guillemets gratuits qu'elle peut se mettre, même si elle en fait 20, 30, 40, peu importe. Elle aurait pu un petit peu creuser l'écart. Puis là, c'est vrai que tu as cette espèce de coup d'arrêt, tu te déplaces. Bon, c'est pas si loin de chez elle que ça, mais c'est vrai que c'est voilà, ça rappelle que c'est un sport d'extérieur qui a des annulations dans tous les sens et qu'il faut faire avec, même si c'est quand même assez frustrant.
Johan, on l'a vu avec Michaela Schifrin, on l'a vu avec son copain tout blessé aussi, on l'a vu avec Unser Corinne Sutter. Même s'il n'y a pas de course, les athlètes ont quand même besoin d'exposer leur sponsor. Alors que Souter s'est retrouvé à mettre les autocollants sur ses béquilles. Les autres doivent absolument faire de l'image, même si elles sont pas, ils ou elles sont pas sur les courses. C'est vraiment, il doit y avoir des contrats là derrière. Ben, Rebecca, je viens vers toi. Je vois que Johan est un peu bloqué sous un tunnel. Rebecca, il y a besoin de communiquer. On a l'impression qu'il y a presque des contrats entre les marques. Et les athlètes pour communiquer un max.
Non, c'est clair. Bah, tu vois hein, souvent que ces athlètes sont quand même extrêmement dépendants de leurs sponsors. Forcément, même au haut niveau, tu n'as pas envie de vivre qu'avec ton cash prize. De toute façon, tu sais que tu as une valeur marketing. Et même pour les athlètes, justement, qui ne sont pas en train de taper dans les primes du vainqueur, bah, tu es obligé d'ultra-afficher ton sponsor. Et c'est tellement frappant quand tu regardes les interviews. À la télévision après les courses, et tu vois la gourde qui est suspendue, le bâton dans une main, le ski dans l'autre. T'as limite la, ouais, enfin, t'as la casquette en plus. À limite, ils se contorsionnent pour afficher des tongs s'ils sont sponsorisés par une marque de tongs, quoi. Donc, tu vois que la dépendance, elle est quand même assez forte. C'est vrai que les béquilles de Corinne Souter, ça m'a tué, quoi. Parce que c'est vraiment, en plus, c'est tellement logique, quoi. C'est presque des bâtons de ski. Ça marche trop bien.
Johan, on le voit aussi dans les autres disciplines de la FIS, hein, notamment chez Suiski, où tu as les physios comme ça, ou les chefs de presse qui attendent en bas avec un ski tout propre pour échanger avec les skis qui viennent de terminer la course, un truc un peu plus petit pour être juste à hauteur de caméra. L'image est super importante, que ce soit en télé ou en réseaux sociaux.
Ouais, t'es, comme l'a dit Rebecca, tu es obligé aujourd'hui hein, parce que tu vis la majorité, on va dire que les 90% des athlètes vivent quand même grâce à leurs sponsors. Hein. Rares sont ceux qui peuvent vraiment profiter pleinement des primes gagnées sur les compétitions et ils sont obligés d'afficher leur marque de ski, leur gourde. Et l'image, ouais, elle est primordiale. Mais après, bah, c'est pas uniquement dans le ski, hein. Je pense que c'est dans tous les sports que cela se fait. Et après, il faut aussi rappeler que les skieurs, la Suiski, ils ont droit qu'à un seul sponsor principal. Sinon, c'est que des sponsors de Suiski. Et souvent, bah, c'est grâce à ce sponsor principal qu'ils vivent. C'est le sponsor que tu vois sur la casquette ou le casque.
Et ça crée dans d'autres fédérations des gros problèmes, hein. C'est quoi Broughton, hein, notamment, qui a eu des problèmes avec ça?
Ouais, tout à fait. Ben, Breton, en fait, il voulait. Il est sponsorisé également par une autre marque d'habits qui n'est pas celle de la Fédération norvégienne, d'où les différents conflits qu'il y a eu bah, ces dernières saisons entre la Fédération et Bretonne qui a conduit vraiment à ce qu'il prenne sa retraite parce qu'il n'était pas en accord également avec ses droits d'image et tout. On en vient un peu une sorte de même histoire qu'avec Kylian Mbappé et l'équipe de France. Sur les droits de l'image et on peut comprendre la frustration des athlètes d'être un peu brimés par leur fédération parce qu'ils n'ont droit qu'à un seul sponsor principal au final.
On se rappelle, l'In7, typiquement à l'époque, tu ne pouvais pas faire une photo ou une interview sans qu'il n'y ait pas deux petits taureaux qui volent juste derrière ou à côté. On se rappelle tous des interviews de Justin Murizier avec son maté lucernois qu'il essaye tant bien que mal de placer. Les athlètes, eux, comment ils vivent ça? Est-ce que vous avez déjà une fois parlé avec eux? Parce que c'est un secret de Polichinelle, hein, puis tout le monde comprend bien le petit jeu. Mais des fois, c'est quand même un peu ridicule.
Ouais, après je comprends qu'ils soient obligés de se plier à ce jeu-là, surtout tu vois quand tu débarques ou quand enfin Inzevon à la limite tu pourrais dire bon elle était assez puissante pour peut-être essayer d'avoir quelques exceptions, mais je pense à tous ceux qui se font une place en Coupe du Monde ou qui essayent de vraiment gagner les premiers rangs. Pour eux c'est plus compliqué. J'avais discuté avec les Valaisannes Camille Rast et Mélanie Meillard, puis c'est vrai que tu vois que bah tes séances photo. Il faut tous les éléments pour la séance photo. Tu n'enlèves pas ta casquette parce que le sponsor doit apparaître sur la photo. Et même si la photo serait plus jolie sans casquette, parce que ça fait quand même un peu une ombre quand tu es face au soleil, bah, tu gardes la casquette parce qu'il faut la garder. Et c'est vrai que tu te dis, c'est dommage parce que c'est cool pour eux qu'ils aient des sponsors, mais c'est clair que tu vois qu'il y a une espèce de vraiment d'énormes contraintes en fait sur eux ou limite, quand tu sors de chez toi, il faut absolument que tu aies tous tes éléments dans ta voiture au cas où il y a un cliché qui sorte et que ce soit le chaos, quoi.
Bon, chaque post Instagram est cadré au millimètre pour vraiment placer la marque, le sponsor. Oui, effectivement, c'est partout, dans tout ce qu'ils font, il y aura, tu verras le petit détail qui fait que la marque est bien placée.
Voilà, alors on va juste terminer ce podcast une minute. Alors déjà, big up à Marco Dumont pour son podium de ce week-end, c'était vraiment très beau. Johan, un petit mot quand même sur la retraitée du jour. Mowinckel, quand même une Norvégienne exceptionnelle qu'on aime beaucoup. Elle a annoncé son départ. Qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que c'est un sacré numéro, elle.
Ragnhild Mowinckel, c'est quand même l'une des meilleures skieuses de cette dernière décennie, hein, au plus haut niveau. Elle n'a pas tant que ça de podium, hein, au final. Hein. Il me semble que c'est 4 victoires, 14 podiums. Mais elle a été d'une régularité qui était impressionnante. Elle a souvent connu des blessures et à chaque fois, elle est revenue malgré des genoux en compote. Et puis, malgré tout, elle a des médailles mondiales, des médailles olympiques. Et surtout, c'est une personnalité. Elle a toujours le sourire sur la Coupe du Monde de ski. Et je pense que ça, c'est propre aux Scandinaves. C'est tous des bons types.
Rebecca, un avis sur la Ragnhild qui a l'air solaire, vraiment.
Ah, c'est clair. Puis, voilà, elle était toujours un peu aux avant-postes. Tu savais jamais si cette fois elle allait reprendre un podium ou si elle allait être top 5 ou autre. Puis effectivement, elle avait ce côté où, facile à lui parler. Après une course, genre, elle t'a jamais vu de ta vie. Tu lui poses une question, tu dis pardon, Ragnhild, je peux vous poser deux questions. Elle dit ah oui, et elle te sourit et puis elle vient te répondre. Donc, c'est vrai que c'est toujours précieux d'avoir des athlètes comme ça qui sont simples à aborder. Et qu'on a beaucoup de choses intéressantes à dire aussi.
Merci les belles amies, c'était très intéressant. On se retrouve tout bientôt. Les finales approchent. Hein. À bientôt.
À plus,
à
ciao, ciao.
bientôt, salut.